conservation de ces espèces, sur les menaces qui pèsent sur elles dans le milieu naturel. Donc c'est ce public-là qu'on touche, c'est une, voilà, on sert de porte d'entrée, si vous voulez, à l'écologie, à la conservation. Ça touche également les scolaires, en fait. On a un gros travail avec les scolaires, avec des ateliers pédagogiques. On accueille plusieurs milliers de scolaires par an. Et pour plusieurs d'entre eux, on va faire des animations par groupe de 15, donc petits groupes volontairement, pour justement avoir la meilleure qualité possible en termes de pédagogie, où on va avoir des personnes extrêmement bien formées, des médiatrices scientifiques, qui vont les accompagner justement pendant 1 heure à peu près, au plus près des espèces pour comprendre comment elles vivent, comment elles interagissent, par exemple les jeux sociaux chez les capucins poitrine jaune, une espèce d'Amérique du Sud, en lançant des pommes de pin justement pour voir un petit peu comment fonctionne la hiérarchie et justement quel comportement on doit avoir pour ne pas la perturber, cette hiérarchie. Comment ça fonctionne? Et là encore, comment on travaille avec elles en parc zoologique pour qu'elles soient au mieux par rapport à leurs besoins en milieu naturel? Et on a évidemment toujours un message sur les questions d'écologie et de conservation avec les scolaires à la fin. Donc ça, c'est pour la partie pédagogie. Pour le grand public, ça se traduit déjà par avoir des présentations cohérentes, c'est-à-dire que quand on s'attache à parler biodiversité, à parler même le langage du naturaliste, en fait. On va présenter des espèces de manière cohérente. On va essayer de les présenter dans un environnement qui est proche possible avec les contraintes qu'on a de leur milieu naturel, mais aussi de présenter des espèces ensemble qui peuvent cohabiter dans le milieu naturel. Par exemple, on a un espace avec tapir, nandou et capybara, qui sont 3 espèces de forêt amazonienne que l'on peut retrouver ensemble. On va éviter de mixer des espèces qui ne se croiseraient jamais dans le milieu naturel. Voilà. L'idée, c'est quand on voit un biotope avec des espèces ensemble, que ça soit le reflet de ce qu'on retrouve dans le milieu naturel. Pour être là encore cohérent en termes de message pour le public, il y a pour chaque espèce évidemment des informations réglementaires, c'est tant mieux, sur les menaces qui pèsent sur elles, sur leur mode de vie, sur la classification aussi, qu'est-ce que c'est comme espèce, son régime alimentaire, espérance de vie, etc. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on est attaché et on veut vraiment renforcer ce volet-là avec des animateurs, parce que c'est vraiment par là que passe l'émotion et surtout la connaissance, en fait. J'avoue que lire un panneau, c'est bien en général, mais beaucoup passent à côté, ou en tout cas, l'exploitent pas suffisamment, alors qu'un animateur, clairement, on voit tout de suite la différence. Donc là, on va travailler là-dessus. Conservation, donc 2 volets sur la conservation, sur cette deuxième grande mission. La conservation in situ que vous avez sûrement déjà bien évoqué avec Florence, donc le soutien au programme dans le naturel. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a la conservation également ex situ, donc ça veut dire en dehors du milieu naturel. Et pour cela, les eaux jouent le rôle d'élevage conservatoire. C'est-à-dire que, en cas de pépin dans la nature, on a des animaux que l'on peut réintroduire. Et pour pouvoir être réintroduit, ça veut dire qu'il faut une pureté au niveau de l'espèce, éviter les hybridations, mais également avoir une grande diversité génétique pour qu'au sein de cette population, il y ait une viabilité dans le temps. Si on la remet et qu'en fait il y a des tares génétiques, parce qu'on a reproduit le père avec la fille, et ainsi de suite, sur plusieurs générations, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pas le but. Donc du coup, on a des vraies contraintes en termes de gestion de population, nous, au sein des parcs européens, pour avoir la gestion la plus fine au niveau génétique possible, dans le cas de cette conservation ex situ. Ça veut dire aussi des choix qui doivent être faits dans les espèces, quelles sont les espèces pour lesquelles il y a les plus gros enjeux en termes de conservation. Donc ça va guider le plan de collection, à savoir les espèces qu'on va présenter au parc. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les visiteurs, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour la conservation de cette espèce? C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier des espèces menacées. Malheureusement, des espèces qui sont peu menacées à l'heure actuelle peuvent aussi le devenir, donc voilà, faut pas les écarter non plus. Mais on va travailler par exemple sur des espaces mixtes. Si je prends la volière des ibis chauves avec les damans des rochers qu'on avait historiquement avec, on est sur 2 espèces qui cohabitent très bien. Les damans des rochers, ça ressemble un peu à une marmotte, c'est pas du tout de la même famille, mais voilà, pour donner un petit peu l'idée, la taille, de la corpulence. Et donc les ibis chauves, ce sont des petits échassiers qui font à peu près 2 kilos avec un long bec et ils vont justement être très opportunistes, très omnivores dans leur régime alimentaire. Donc damans des rochers peu menacés, ibis chauves très menacés. Et donc on s'assure d'avoir 2 espèces qui cohabitent bien pour être sûr que les damans des rochers n'aillent pas gêner la reproduction de cette espèce pour laquelle il y a un plus fort enjeu. Donc vraiment, ça nous guide dans le choix des espèces que l'on présente au parc. On a une gestion qui est collégiale au niveau européen avec un référent par espèce. Donc on s'inscrit dans le cadre de programmes d'élevage. C'est pas nous qui faisons ce que nous voulons avec nos animaux. Mais lorsqu'on souhaite justement avoir de la reproduction ou au contraire des contraceptions qui doivent être mises en œuvre, ça se fait sur les directives d'un coordinateur qui généralement est mis à disposition par un parc, surtout un vétérinaire, un scientifique, qui a une vue globale sur l'ensemble des animaux détenus dans les parcs zoologiques en Europe. Et en plus, ce travail-là, il s'étend de plus en plus. Donc, on est dans le cadre maintenant excusez-moi pour l'anglicisme, mais du one plan approach. C'est-à-dire que on va intégrer dans ces populations-là les sanctuaires également dans le milieu naturel, pour justement avoir, pour des raisons génétiques, entre autres, des brassages de populations d'individus pour avoir les populations les plus vives possibles, mais également pour transmettre les connaissances qu'on a en parc zoologique aux sanctuaires, puisque c'est beaucoup plus simple de suivre des individus, de faire des essais en parc zoologique et ensuite, fort de cette expérience-là, de pouvoir le reproduire dans le milieu naturel. Par exemple, il y a eu des essais sur des nids pour les calaos à Bornéo. Les grands arbres de la forêt primaire ont été rasés, coupés pour justement exporter le bois exotique. Et ces grands oiseaux que sont les calaos avaient des difficultés pour trouver des nids, toujours. Une des solutions qui a été apportée, ça a été de créer par l'homme des nids artificiels. Mais le problème, c'est qu'il a fallu beaucoup, beaucoup d'itérations avant de trouver le nid qui était adéquat. Parce qu'en fait, la nature étant bien faite, ces grands arbres, justement, qui avaient des infractivités, avaient permis d'avoir une hygrométrie qui restait constante, une température aussi très stable, et donc de lisser, justement, ces variations environnementales et de permettre une bonne incubation des œufs par les parents. Et donc, on a fait énormément d'essais en parc zoologique avant de trouver le système qui serait le plus approprié. Voilà, donc ça, c'est des choses ensuite qui sont redéployées en milieu naturel grâce à l'expérience qu'on a en parc.
Ça intéresse quand même beaucoup les gens. Moi, je connaissais plus la conservation dans le zoo que ce que m'a appris effectivement Florence Pérouse sur les programmes extérieurs, où je n'avais pas forcément conscience qu'un zoo participait aussi aux programmes extérieurs voilà, sur tous les territoires, que ce soit en France ou ailleurs.
Autre exemple d'ailleurs, qui l'atteint un petit peu plus celui-ci, mais sur les orang-outans, toujours justement, les orang-outans qu'on a en parc, les orang-outans de Bornéo, en l'occurrence, cette espèce, on a pu tester sur eux des implants radio-émetteurs pour pouvoir tester du matériel permettant de les localiser. Et donc ça, on a pu faire les essais, voir justement s'assurer que c'était pas trop invasif, que l'orang-outan qui est très habile, très curieux, n'enlève pas cet implant-là, pour pouvoir ensuite mettre ces implants-là sur leurs congénères sauvages et voir leur mode de vie. Qu'est-ce qu'ils font la journée? Où c'est qu'ils vont nicher? Comprendre mieux leur mode de vie et justement, on va dire, aménager les pratiques humaines, notamment dans les champs de palmiers à huile, pour dire, bah, écoutez, les orangs-outans, ils vont pas détruire tous les jeunes plants. On va essayer de les dissuader de venir quand les plants sont encore trop fragiles. Mais une fois que les arbres adultes, ils ne vont pas les détruire parce que ce qu'il y avait jusqu'alors, c'était du braconnage. En fait, ah bah tiens, cet animal, il rentre dans notre champ de palmiers à huile. Qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Donc voilà, il y a un gros travail qui a été fait, mais qui a nécessité d'avoir des connaissances sur le mode de vie des orang-outans et leur adaptation aux pratiques humaines localement à Bornéo. Il est important de rappeler aussi, quand on parle de conservation ex situ, d'élevage conservatoire, qu'il n'y a plus de prélèvement dans le milieu naturel depuis les années 70, depuis la signature de la convention de Washington, qui réglemente le commerce d'un grand nombre d'espèces animales. Donc, en gros, l'idée, c'est que toutes les espèces menacées dans leur milieu naturel, on en interdit l'export, mais de toute partie de l'animal, c'est-à-dire le cuir, les défenses. Et donc, voilà, même si le problème est qu'ils ne venaient pas forcément des eaux, on y est soumis et c'est très bien. Et du coup, on aide les autorités, d'ailleurs, à la mettre en œuvre. C'est-à-dire que lorsque les autorités, par exemple, en République démocratique du Congo, vont saisir des jeunes chimpanzés, on soutient des sanctuaires qui permettent aux autorités de placer ces jeunes chimpanzés dans de bonnes conditions, le temps de pouvoir les relâcher dans le milieu naturel. Alors, parce que souvent, il y a des pays qui n'ont pas les moyens en face d'une application stricte de ces règles. Et voilà, ils vont agir, mais après, ils ne vont pas savoir quoi faire derrière avec les animaux. Donc, c'est là où les parcs ont un rôle aussi à jouer. Quand j'ai évoqué du coup le travail sur les calaos, en termes de conservation, sur les émetteurs aussi, en fait, ça aborde la question de la recherche en parc zoologique. On peut avoir de la recherche fondamentale, mais ce n'est pas facile, je vais forcément mettre en avant. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche appliquée, à la fois pour le bien-être de nos pensionnaires en parc zoologique, par exemple sur l'impact d'un changement alimentaire, donc d'avoir une orientation plus sur des légumes que sur des fruits pour baisser les quantités de sucre ingérées, voir l'impact sur le microbiote et sur le bien-être, essayer justement de dégager des analyses objectives sur est-ce que les animaux se sentent mieux, comment doit se passer la transition pour se faire en douceur, limiter le stress, les agressions entre individus, des diarrhées potentielles si on fait un changement trop brutal. Donc ça, c'est des éléments qui sont monitorés et qui amènent des changements de pratiques dans l'ensemble des parcs zoologiques, mais également de la recherche appliquée qui vise à améliorer nos pratiques en termes de conservation. Je vais prendre l'exemple d'un protocole anesthésique pour les loups, les licaons. C'est un protocole BMM, en l'occurrence, c'est l'association de trois molécules avec des dosages bien spécifiques qu'on a mis en place et testé à la palmyre. Et donc, au fur et à mesure, on a pu affiner ce protocole parce qu'à la limite, le risque qu'on pouvait avoir, c'était une hyperthermie de l'animal. Donc, un animal qui monte en température de manière importante, ça peut laisser des séquelles. Mais c'est beaucoup plus simple chez nous quand, sur un climat tempéré, on a tout le matériel adéquat, les bâtiments aussi, pour pouvoir gérer ce problème-là, que quand on est au milieu de la savane africaine. Et la deuxième difficulté aussi, c'était le relâcher dans le groupe où les réveils étaient plus ou moins simples et où l'animal était plus ou moins en forme avec les anciens protocoles. Et où on avait pu constater notamment des attaques par des congénères du fait que l'animal réveillé ait un comportement anormal. Donc, avec la mise en place de ce protocole chez nous, on a pu ensuite le transmettre à des vétérinaires en Tanzanie qui travaillent sur le Lycaon, justement, et qui avaient besoin de pouvoir anesthésier ces animaux, parce que ces animaux sont extrêmement puissants et dangereux si on veut les manipuler, donc ça se fait sous anesthésie, pour mettre de la pose de collier émetteur. Comprendre un petit peu leur mode de vie, leurs traces, à quel moment justement ils peuvent perdre la vie pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur eux, mais aussi les colliers de protection. C'est-à-dire qu'ils ont des gros colliers en cuir assez larges avec plein de clous tout autour. Et en fait, l'idée, c'est de les protéger des collets. Les collets, c'est des pièges faits en fil de fer qui sont à la base posés pour chasser des types d'antilopes. Et en fait, les lycaons, en voulant chasser eux-mêmes les antilopes, suivent leurs traces et tombe sur ses collets qui les étranglent et en fait quasi décapite parce que du coup l'animal se débat, c'est horrible. Donc voilà. Alors bon, déjà c'est pas chouette pour l'antilope, mais en termes de conservation pure, il y a un beaucoup plus important. Enfin, le renouvellement des antilopes est beaucoup plus important que les lycaons. Mais là, sur des prédateurs, lorsqu'ils meurent à l'âge de 3-4 ans et que c'est répété sur des groupes entiers, ça menace réellement l'espèce. Donc voilà, ce protocole anesthésique a permis justement de participer du sauvetage du lycaon en Tanzanie.
Et ces protocoles, ils sont encadrés par le vétérinaire, par les soigneurs de l'espèce en question. Ça doit être un peu intéressant quand ça commence.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la posologie. C'est des ratios par rapport au poids de l'animal, c'est-à-dire tant de millilitres de cette molécule, tant de millilitres de celle-ci, tant de millilitres de celle-là, par rapport au poids de l'animal. Donc, par contre, avec les animaux sauvages, même en parc, c'est toujours la difficulté d'évaluer le plus finement possible le poids de l'animal. En humaine, on monte sur la balance, on connaît le poids exact de la personne. Quand on travaille avec les animaux sauvages, il faut avoir l'expérience. On a des tables en fonction de l'âge, en fonction de l'espèce, en fonction de pas mal de choses, mais après un moment, il faut faire un body scoring à l'œil pour l'évaluer au mieux. Et donc ça, il y a une formation qui est faite sur la transmission des infos. Après, ce protocole-là, il est utilisé par des gens qui sont déjà vétérinaires sur place, qui savent manipuler, ces produits. C'est une mission qui nous en fait, qui est assez intime par rapport au parc et qui transcende les autres, c'est le bien-être animal. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on a peu communiqué pendant un temps, c'est-à-dire qu'à l'époque de mes grands-parents, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient à la maison. Enfin, il y avait une passion, un amour vraiment charnel. C'était voilà, des types chimpanzés, gorilles, orang-outans élevés à la main. Ils ont un nom, enfin, il y a une attache qui est très forte. Et en même temps, il y avait déjà en tête l'idée que ce n'était pas des animaux de compagnie. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus dur. Et avec le recul, on s'est rendu compte que une imprégnation trop importante, ça posait des soucis à un moment de réintroduction dans le groupe. Un chimpanzé qui a été élevé à la main, c'est génial, un humain, c'est hyper intéressant. Et il avait tendance à se désintéresser de ses congénères et attendre que le soigneur revienne pour interagir avec lui ou mon grand-père. Ça fend un peu le cœur quand on voit que l'animal il passe plus de temps à nous attendre qu'à jouer avec ses congénères. Donc, sort de cette expérience-là, justement, on s'est détaché, essayé d'avoir une approche plus professionnelle. L'expérience aussi a permis de maximiser les chances d'élevage par les parents. Les connaissances se sont accrues. Mais du coup, même dans les images, on s'est un peu détaché, en fait, de l'animal qu'on prend dans les bras, de la girafe, du guépard sur les genoux. Et je pense que dans l'esprit de certains, ça a été associé au fait de « Ah, en fait, ils n'aiment pas tant que ça les animaux parce qu'ils ne les prennent pas dans leurs bras. » Et du coup, beaucoup plus compliqué de parler de bien-être animal de manière objective. En tout cas, de l'objectiver au maximum. Des fois, on a des retours du « Ah, on a vu dans ses yeux qu'il avait l'air malheureux. Ah, ou au final, j'ai vu qu'il était vraiment heureux. Là, on a croisé nos regards et j'ai vu que c'est extrêmement difficile. » Donc, on va s'attacher justement à qu'est-ce qu'un comportement normal. Ça ne va pas être la même chose chez un loup. D'ailleurs, selon son niveau hiérarchique, ça ne va pas être la même chose chez un primate. Les besoins non plus. Est-ce que c'est des animaux sociaux, plutôt solitaires? selon l'étape de leur vie également. Est-ce qu'au régime alimentaire, c'est adéquat? Est-ce que c'est des animaux qui ont besoin d'évoluer en hauteur? Donc, pas mal de conscience environnementale. Et en plus, maintenant, on fait des analyses individuelles en termes de budget temps. Qu'est-ce que fait l'animal? Bref, on va avoir des screenings de 10, 15 minutes, plusieurs fois dans la journée, sur des temps un peu longs, pour voir un petit peu ce que fait l'animal. Et voir si c'est des budgets temps qui sont cohérents par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le milieu naturel. Et notamment, on s'est rendu compte que sur les chimpanzés, ils passaient 3 fois moins de temps que dans la nature à chercher justement de la nourriture. Parce qu'on leur apporte sur un plateau, c'est tout prêt, c'est facile. Et donc, on a vraiment mis en place tout un travail en augmentant le nombre de repas. Du coup, on réduit les quantités, couper en plus petits morceaux, disperser, amener un caractère aléatoire, choisir des contenants, pas toujours les mêmes, pas toujours aux mêmes horaires, pour justement reproduire ce temps, et puis justement limiter au maximum des comportements d'ennui négatifs, par exemple un surtoilettage. Voilà, donc on est vigilant à la fois sur les comportements positifs et négatifs. On évalue au mieux, et là on peut commencer à parler de bien-être animal de manière objective et de s'en saisir. Mais c'est vrai qu'on a été peut-être un petit peu dépassé il y a quelques années par des antisos qui, alors parfois à raison, hein, sur des institutions qui n'étaient pas du tout au niveau, mais souvent avec un manque de fondement scientifique derrière pour dire heureux, pas heureux, la question nécessite d'être creusée. En tout cas, nous, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a des, alors, je pense pour le zoo de la Palmyre, mais pas que, des gens passionnés qui sont attachés quand même à faire au mieux pour leurs animaux. C'est voilà, ils sont là pour ça, c'est leur souci. Ils les voient au quotidien, donc c'est des personnes hyper précieuses qui voilà remontent les besoins et que nous derrière on met en œuvre les moyens pour que tout se passe au mieux pour les équipes, pour les animaux. Donc, ça qui nous anime.
Puis on avance autant sur les critères d'évaluation que sur les mesures au final. C'est aussi important quasiment.
Ah c'est lié. D'ailleurs, si jamais on avance un peu trop sur l'évaluation et qu'on commence à avoir une liste de choses à faire qui s'allonge et qu'on va pas assez vite, ça crée rapidement de la frustration pour tout le monde. Dire non, non, attendez, on se pose là, faut qu'on les mette en œuvre. Et donc là, d'ailleurs, en ce sens, on a recruté, renforcé notre équipe technique, justement, parce que on a pu constater que ça pouvait être un goulet d'étranglement sur certaines améliorations en matière de bien-être. Par exemple, laisser un accès libre la nuit à la totalité de l'espace. Ça peut être augmenter le nombre de repas, la complexité, etc. Ça, c'est le soigneur. Mais après, quand il s'agit de mettre des cordages, des tablettes, des nouvelles boîtes, des hamacs, là on a besoin de l'équipe technique. Il y a pas mal de choses à faire et donc c'est pour ça qu'on a justement.
Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nos auditrices et auditeurs, et puis qui sont ravis probablement d'aller venir voir en vrai sur place comment ça se
Je
passe, quoi.
l'espère.
Voilà.
Je l'espère.
Merci à Pierre Caillé, merci à Florence Pérou pour votre accueil au sein du zoo de la Palmière. Merci aux soigneuses et soigneurs que nous avons pu rencontrer dans le cadre de ces reportages. Je tiens à remercier aussi Marilyn et Alice qui m'ont accompagnée pour l'enregistrement de ces émissions. Et merci à Virginie pour la programmation. Personnellement, c'était une expérience très enrichissante, avec beaucoup de découvertes sur le monde du zoo que finalement je connaissais assez mal, auditrices et auditeurs. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ces reportages que moi à les réaliser. Et c'est terminé pour ce programme en immersion au zoo de la Palmyre. Restez branchés sur D4B, les programmes continuent.
La, 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 la. La 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 la. Les événements se précipitent, il y a des travaux dans le quartier. La belle chose qu'on s'était dite, c'était au siècle dernier. C'était au siècle dernier. Ce qui nous attend, voilà, c'est la suite. Allons-y, juste pour la gloire, pour ne pas nous faire oublier. Dans la terre meuble de l'histoire, où sont les manches de nos guitares? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Hep, toi, là, si tu m'entends, tu me vois, chante avec moi, danse la java, pousse la romance. D'une seule voix, la tienne, oui, c'est ça, chante avec moi. Quand tu voudras, si tu y penses. La 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 la
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. C'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens et ça m'aide. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends.
An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Elle est amie, était chez moi. Elle me dit résigne-toi, mais je n'ai pas peur. Changer son poison, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière, et un vieil homme dans un grenier, pour la nuit il nous a cachés.
Effaré de voir que le XXe siècle a inventé la télévision pour en faire des jeux où on doit deviner le juste prix d'un objet, par exemple.
D4B.
Je voudrais pouvoir danser sur les ruines de l'histoire qu'on a partagée. Je voudrais savoir t'oublier. Je voudrais pouvoir presser la détente du pétard qui te délogerait de ma mémoire. De mes pensées, j'ai tout fait, je crois, pour nous sauver. T'es tout fait, c'est toi qui t'es sauvé. Et depuis moi, je rêve d'avoir Alzheimer. Que les souvenirs se meurent pour goûter au bonheur de ne plus penser à toi. Je voudrais pouvoir sortir, ne plus broyer du noir. À ton souvenir, ne plus y croire, ne plus t'écrire. Je voudrais pouvoir dormir, même entre deux cauchemars, entre deux soupirs. Je voudrais savoir laisser courir. Je rêve d'avoir Alzheimer.
à tout berzingue, comme Neil Cassady. Je veux coucher avec des dingues comme Bukowski. Prendre la route en contresens, en bouffant de la mescaline. Te faire l'amour pendant que tu danses en talons aiguilles. Sentir mon sang se glacer dans mes veines. Laisser le temps se foutre de mes peines. Oh la vie, faut qu'on la crame. Par le bout qu'on a envie, du moment que ça fait des flammes. Oh la vie, faut qu'on la crame. Par le bout qu'on a envie, du moment que les flammes sont jolies.
Je vais partir à Mexico, en Sibérie, à Zanzibar. Faire deux fois le tour de la terre avec une grosse moto toute noire. Sauter dans le vide, d'encore plus haut, que la chute soit libre, que le plongeon soit beau. Je veux tournoyer comme un murciélago.
Murciélago.
Si tu veux t'envoler avec moi, faudra chanter tous les deux un truc comme ça.
Oh la vie, faut qu'on la crame, pas nous qu'on a envie. Ça fait des flammes. Oh la vie, faut qu'on la crame. Par le bout qu'on a envie, du moment que les flammes sont jolies. Faudra chanter tous les deux un truc comme ça. Oh la vie, il faut qu'on la crame. Par nous qu'on a envie, du moment que ça fait des flammes. Oh la vie, il faut qu'on la crame. Par nous qu'on a envie, du moment que les flammes sont jolies. Oh la vie, il faut qu'on la crame. Par nous qu'on a envie, du moment que ça fait des flammes.
Myself in the parade, the hoochie-coochies and the games, made sure no one could tell. I was feeling all this pain, I took the march and all the rest. Kept on drifting in the shade, lying on the macadam. I felt my knees fall to the ground, raise my arms up in the air. Look as far as I can, we all share. The grace left behind, and if life is a dread, better days will arise again. Absence, my beloved, tripped into the light, took me for a dance, lean into my arms. Wherever I may go, whatever I may say, she's on my side. Don't know why I fell, my knees fall to the ground. Raise my arms up in the air, look as far as I can. As we can, we all share the grace left behind. And if life is a dread, better days will arise again. Coaches and the games, made sure no one could tell. I was feeling all this pain, I took the march and all.
Not a single raindrop produced in Arizona. Skies as empty as the Russians about to call. The new bright colors on the walls of La Posada. I'm gonna get washed by the sun and up the water. I can tell people try to get me on the plane. Stop it, I'm staying. Don't call me again. I'm staying. You quit and it's small. It's got a real tan. I don't know about you, but I'm tired of the rain.
Chicken and with them I could play.
Oh, I know what you gonna say. Tough girls don't last more than a day. Oh, I know what you gonna say. But just do is money, chicken and with them I could play. Marketplace, this beat takes good sales. Chippers, big seasoning in your stores. Marketplace, this beat takes good sales. Take the girls there and you get them all. Mexican architects understand what it takes. Make them damn crazy, beautiful hops. Mexican cactuses, no girl is good.
Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. La daube?
C'est une daube de désespoir.
Ah oui? Ma pauvre mère la faisait avec du bœuf.
D4P.
Yeah, yeah. Fast que chez Sarah Lugo. Va.
Peut-être une autre fois, j'aurais chanté le même rap avec une autre voix. J'aurais pesé pareil en faisant un autre poids. J'espère que dans le futur, je serai le même qu'autrefois. Je n'ai pas d'autre choix, je prends chaque jour comme il vient. La voix sourire suffit pour adoucir mon quotidien. Ouais, aujourd'hui je profite.
Ouais, aujourd'hui je profite.
Je regarde la vie sous son plus joli profil.
Ça se profile bien, ouais. Y'a deux, trois personnes qui m'aiment. J'amène bitch à l'hôtel, ouais, ma biche le vaut tellement. Je dois être un hippie moderne, je réfléchis à long terme, je dois rester chill à mon enterrement. Y'a deux, trois personnes qui m'aiment, j'amène bitch à l'hôtel, ouais, ma biche le vaut tellement. Ouais, je dois être un hippie moderne, je réfléchis à long terme, je dois rester chill.
Let's do it for the pleasure, and not for the treasure. Step out of the box, lean back and relax. Oh, chill for a while, smile, do it for the pleasure.
Yeah.
On chante pour la paix, surtout pour le plaisir. On ne vit qu'une fois, essayons d'assouvir nos désirs. Chacun s'en se prend, ouais, chaque occasion est à saisir. Pour qu'on se lâche un peu, pour le fun et pour le délire. Oh, 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 oh. Levez haut les mains. Ce soir je suis sur scène, je ne me leverai tôt demain. Et même si le bédo met un pro, allez, je mange un gros. Souvent pour le plaisir, on met sa vie en déclin. Tant pis, tant pis. On profite, on chill, on rêve toujours des mêmes choses, des mêmes envies, même si on grandit. La routine nous ennuie, on vit pour le plaisir de se sentir en vie. L'optimisme est de mise pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Je ferai reine ma mise
pour le plaisir.
We follow all our dreams
pour le plaisir.
J'en ferai ma devise
pour le plaisir.
We jamming on the beat
pour le plaisir.
Et je mène la vie d'artiste.
Sarah Lugo, Fat Bop, c'est l'équipe.
For the pleasure, and not for the treasure.
do it all the time. We 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 do it all the time.
There was a day my life was in a different space. There was a time that I was in an ugly place. My mind was gone and I was feeling scared as hell. I can't blame you, won't believe the things I felt. But now I see the silver lining in a fear. Gives me reason to believe the sun is near. Just once the world be mine, I'll sing and dance all night. I think we'll get there in my time. Ooh, I think we'll get there. I think I'll get there in my time, yeah. Ooh, I think we'll get there. I think I'll get there, then you're mine, yeah. Ooh, I think we'll get there. I think I'll get there in my time, yeah. Ooh, I think we'll get there. I think I'll get there.
Thank you.